Évangile selon Matthieu, Samuel Prodan. Avant-propos. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. En effet, quelle bonne nouvelle que celle qui présente aux hommes un sauveur parfait, expression de l'amour de Dieu pour eux. Nos lecteurs savent que les évangiles sont au nombre de quatre et que tous ils racontent la vie du Seigneur Jésus ici-bas. Et vous êtes-vous demandé pourquoi Dieu nous a donné quatre écrits inspirés pour faire connaître la vie de son Fils bien-aimé dans ce monde, lorsqu'il semble qu'un seul eût suffi? La raison se trouve dans le fait que le Seigneur devait être présenté sous des caractères divers. Un récit unique ne pouvait convenir à l'Esprit de Dieu pour montrer, dans ses gloires diverses, celui dont les prophètes avaient parlé, qui était tout à la fois le Messie promis aux Juifs, le fils de David, Emmanuel, Dieu avec nous, le serviteur et prophète, le fils de l'homme, celui qui, tout en étant la semence de la femme, était en même temps le fils de Dieu, Dieu lui-même. Il a fallu, pour révéler une personne si glorieuse, quatre récits qui le présentent sous les quatre grands caractères dont les prophètes avaient parlé. Matthieu place devant nous le Seigneur sous le caractère de Messie promis aux Juifs. Il est appelé au premier verset Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Marc raconte la vie du Seigneur comme répondant au caractère de prophète ou de serviteur dont Ésaïe entre autres a parlé. Chapitre 42, verset 1.
Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il fera valoir le jugement à l'égard des nations.
Chapitre 49, versets 3, 5 et 6.
Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. C'est 5. Et maintenant, dit l'Éternel qui m'a formé dès le ventre pour lui être serviteur afin de lui ramener Jacob. Quoiqu'Israël ne soit pas rassemblé, je serai glorifié aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu sera ma force. Et il me dit, c'est peu de chose que tu me sois serviteur pour rétablir les tribus de Jacob, et pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre.
Ésaïe 52, verset 13.
Voici mon serviteur agira sagement, il sera exalté, et élevé et placé très haut.
Ésaïe 62, verset 11.
Voici, l'Éternel a fait entendre jusqu'au bout de la terre, dites à la fille de Sion, voici, ton salut vient, voici, son salaire est avec lui et sa récompense devant lui.
Le psaume 40 le montre comme ayant annoncé la justice dans la congrégation d'Israël, versets 9 et 10.
J'ai annoncé la justice dans la grande congrégation. Voici, je n'ai point retenu mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je n'ai point caché ta justice au-dedans de mon cœur. J'ai parlé de ta fidélité et de ton salut. Je n'ai point scellé ta bonté et ta vérité dans la grande congrégation.
Moïse a annoncé à un prophète que l'Éternel susciterait au peuple. Deutéronome 18, verset 15.
L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi, du milieu de toi, d'entre tes frères. Vous l'écouterez.
Voilà déjà deux caractères du Seigneur qui occupent une grande place dans l'Ancien Testament, celui de Messie et celui de serviteur. Le troisième, non moins glorieux, est celui que Luc présente, le Fils de l'homme, l'homme selon les conseils de Dieu. Le premier homme, Adam, a par son péché perdu droit à tout, sauf au jugement. Le second homme, semence de la femme, ce qu'Adam n'était pas puisqu'il n'était pas né de femme, hérite, en vertu de la rédemption, de tout ce que le premier a perdu. C'est pourquoi il dut mourir et tout racheter. Aussi, c'est à lui, l'homme parfait, qu'appartiennent la gloire et la domination sur toute la création, comme on le voit. Psaume 8, versets 3 à 9.
Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, les brebis et les bœufs, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, l'oiseau des cieux et les poissons de la mer, ceux qui passent par les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre.
Daniel 7, versets 13 et 14.
Je voyais dans les visions de la nuit, et voici, quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux, et il avança jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, et l'honneur, et la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit.
Il reste encore le plus glorieux des caractères de Christ, celui de Fils de Dieu, celui sans lequel les trois autres ne pouvaient avoir leur réalisation parfaite. Car le Messie, le serviteur, le Fils de l'homme, devait être le Fils de Dieu, Dieu manifesté en chair, le Créateur des cieux et de la terre, qui est la lumière et la vie des hommes. Jean 1, verset 4.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
C'est l'apôtre Jean qui nous le présente comme Fils de Dieu ici-bas. Ces quelques mots aideront nos lecteurs à entrevoir les glorieuses raisons que Dieu a eues pour faire écrire quatre récits concernant la présentation de son Fils bien-aimé aux hommes. Vous comprendrez qu'il est absurde d'unifier ces récits comme certains hommes le voudraient, sous prétexte de rendre les évangiles plus compréhensibles, en abolissant les différences et les prétendues contradictions qui s'y trouvent. Ils n'ont pas compris que ce sont quatre récits différents, et très différents, et non quatre répétitions plus ou moins concordantes. L'évangéliste, conduit par l'Esprit de Dieu et non remis aux soins de sa mémoire, a, dans chacun des évangiles, rapporté les récits, les miracles, les paraboles qui servaient à mettre en relief les caractères du Seigneur que Dieu voulait présenter. De là proviennent les différences que l'on y trouve. Tout ce que le Seigneur a dit et fait, quoique parfait, n'était pas nécessaire pour présenter la vérité à l'égard de sa personne. Aussi, ce qui était utile à l'un ne l'était pas toujours à l'autre. Encore un exemple à l'appui de la chose avant d'aller plus loin. Matthieu annonce la naissance du Messie, le roi des Juifs. Ce sont des mages, des gens de cour royale qui viennent lui rendre l'hommage dû à un roi. Ils lui apportent des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Tout y est en rapport avec le caractère de roi. Marc, qui présente le ministère du serviteur, ne parle pas de sa naissance. Il n'est pas nécessaire de connaître la naissance ou la généalogie d'un serviteur. On attend de lui l'accomplissement de son service. Luc, au contraire, entre dans beaucoup de détails relatifs à la naissance du Fils de l'homme, la semence de la femme, entrant dans ce monde dans l'humilité la plus profonde. Il est adoré par d'humbles bergers dans une étable, et les anges qui célèbrent sa naissance disent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre paix et bon plaisir dans les hommes » Luc 2, verset 14. Tout cela, avec d'autres détails encore, est en accord parfait avec le caractère de Fils de l'homme. En Jean, pourrait-il y avoir une généalogie ou une naissance, puisque le sujet est le Fils de Dieu? Absolument pas. Au commencement, des choses créées étaient la parole, et la parole était Dieu, Jean 1, verset 1. Et lorsqu'il s'agit de sa présence au milieu des hommes, il est dit, « Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, Jean 1, verset 14. » On voit que pas un détail de chacun de ces récits ne peut être remplacé par ceux d'un autre. En faisant un seul, on ne distingue plus rien. Il en est ainsi tout au long des quatre évangiles, quoique ce ne soit pas toujours facile à discerner.